Bienvenue sur Galabertiti,
le son du collège.
Une émission réalisée par les élèves du collège de la Galaberte. Interviews, articles, chroniques et actualités, on y parle de tout et n'importe quoi.
Yeah.
Depuis septembre 2022, réalisée au Club Média à Saint-Hippolyte-du-Fort.
Pour commencer, nous allons entendre Evan qui va nous parler de l'histoire du chocolat.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du chocolat. Les Français ont consommé
347 000 tonnes en 2021 pour une valeur de 3 323 millions d'euros. La consommation moyenne de chocolat en France s'élève à 13 kg d'œufs par foyer et par an. On passe à l'histoire. Avant tout, il faut savoir que l'arbre à chocolat ou le cacaoyer adulte peut atteindre une dizaine de mètres. C'est un arbre de l'ombre, il vit toujours sous la pénombre des géants équatoriaux. Pour le faire vivre plus longtemps et mieux, il est cultivé sous les plus grands arbres. Le chocolat est donc fabriqué à partir du cacaoyer. Les premières traces de cacao remontent à 5300 avant notre ère. Il existe depuis très longtemps et il était consommé sous une forme ou une autre depuis des milliers d'années. Des documents archéologiques récents relèvent que les Olmèques, les Mayas et les Aztèques l'utilisaient comme boisson. Le cacao n'était pas seulement consommé comme boisson, les fèves de cacao servaient également de monnaie d'échange et étaient aussi utilisées lors de cérémonies religieuses et divers rituels. Depuis que les Européens d'Amérique l'ont introduit, cette matière première est devenue l'un des produits les plus appréciés au monde. On le retrouve désormais dans toutes sortes de produits, des barres chocolatiers aux glaces, en passant par les brownies. Tout ça pour dire que le chocolat, c'est délicieux. Merci de m'avoir écouté, c'était Evan sur Radio Escapade. Ciao, ciao.
Super cette chronique, Evan.
Maintenant, nous allons écouter Elina, Lucette et Alice qui vont nous parler de quelques plats emblématiques des pays d'Europe.
Aujourd'hui, Alice, Elina et moi-même, Lucette,
on va vous présenter notre chronique sur certains plats emblématiques de certains pays d'Europe.
D'après nos recherches, le plat typique de France est le foie gras. Il se mange sur des toasts.
Moi, je suis belge et j'adore les frites. Ça tombe bien, c'est le plat emblématique de la Belgique. Et comme vous vous en doutez, c'est constitué de patates frites.
Bacalhau, c'est le plat emblématique du Portugal. C'est constitué de morue et de patates. J'ai décidé de parler du plat du Portugal, car mon papy est portugais.
La paella est le plat typique de l'Espagne dont j'ai voulu parler car mon arrière-grand-mère est espagnole. C'est du riz, des crevettes et du chorizo et des moules.
Le plat emblématique de la Slovaquie, c'est brinzové halušky. En gros, la traduction, c'est boulettes de pommes de terre au fromage de brebis et bacon.
À votre avis, pour l'Italie, c'est plutôt les pâtes ou la pizza ? Si vous avez répondu la pizza, vous avez réussi.
Le pierogi est un célèbre plat polonais qui se mange comme une soupe et personnellement, je trouve que ça a l'air bon.
Le plat typique de la Suisse, c'est la fondue savoyarde. C'est du fromage fondu et on y trempe des petits bouts de pain.
Le plat emblématique de la Suède, qui d'ailleurs a un nom très particulier, c'est la tentation de Jansson. Dans ce plat, on y trouve des pommes de terre coupées en julienne, des oignons et de la crème fraîche.
Le chouriatiki est le plat typique de Grèce, qui est en fait une salade constituée de fruits et légumes avec de la feta.
L'adjoviz gansi, c'est le plat symbolique de la Slovénie, qui est constitué de différentes viandes avec du persil.
Et voilà, c'est fini. J'espère que vous avez aimé notre chronique sur les plats emblématiques de certains pays d'Europe et que ça vous a donné envie de goûter.
Merci et à bientôt. Maintenant, Jeanne va nous présenter une chronique sur les enfants qui travaillent en Chine.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des millions d'enfants qui travaillent en Chine. La Chine est réputée notamment pour être le pays où il y a le plus d'habitants. Il y a aussi forcément beaucoup d'enfants qui sont malheureusement en grande partie obligés de travailler pour échapper de justesse à la pauvreté et gagner un bien petit salaire. Malgré les initiatives gouvernementales de réduction de pauvreté, la répartition des richesses reste très inégale en Chine. Environ 4,2 millions d'enfants sont considérés comme vivant dans des conditions de pauvreté extrêmes. Par ailleurs, on estime que près de 9 millions d'enfants sont défavorisés.
Les familles les plus touchées par la pauvreté sont celles vivant en région rurale ou issues de minorités ethniques. Certaines personnes pensent qu'en Chine, il n'y a que les enfants qui travaillent, mais c'est faux. Le travail est réservé en théorie aux personnes majeures, mais en effet, l'utilisation d'enfants par des entreprises est régulièrement dénoncée par des organisations de défense des enfants. Car à la différence des adultes, les enfants sont vulnérables et représentent pour des individus peu scrupuleux une source de main-d'œuvre malléable, peu chère et facilement remplaçable. C'est souvent dans les pays en développement ou dont la population baigne dans une relative pauvreté comme la Chine qu'ils sont le plus en danger. Il faut savoir que faire travailler des enfants de moins de 16 ans est interdit par la loi en Chine. Cela n'empêche pourtant pas des millions d'enfants d'être exploités par des grandes entreprises quand ils ne sont pas tout simplement enlevés et vendus pour travailler dans des mines ou des briqueteries. Ce phénomène ne touche hélas pas que la Chine, mais il se trouve que son nouveau rang de deuxième économie mondiale a mis sous les feux des projecteurs cette facette embarrassante de son système économique. En Afghanistan, Corée du Nord, Inde, Argentine, Russie, en Chine et plusieurs autres pays, les enfants sont exploités pour fabriquer des vêtements, des chaussures, du tabac, du coton et bien d'autres choses encore. En 2000, il y avait dans le monde 160 millions d'enfants qui travaillaient. C'est beaucoup trop. Ces enfants travaillent environ 64 heures par semaine. Vous vous rendez compte ? Moi, au collège, je travaille 26 heures par semaine. Pour la journée de la jeunesse 4 mai, les enfants qui travaillent ont droit à une demi-journée de congé et dans certaines entreprises, ils ont la possibilité d'avoir pendant chaque vacances une semaine où ils ne travaillent pas. Bon, je crois que j'ai fini cette chronique, j'espère que ça vous a plu et que vous vous rendez compte maintenant de la chance que vous avez. À bientôt.
Très intéressant cette chronique, merci Jeanne.
C'est au tour de Hawa de nous parler des règles étranges dans les écoles au Japon.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des règles étranges dans les écoles du Japon, c'est parti. Tout d'abord, les élèves mangent à leurs établissements scolaires sans avoir la possibilité de rentrer chez eux. Ils mangent des repas sains constitués de légumes, de poissons, de soupe, de viande, de riz et ont toujours une brique de lait. Ils doivent également porter un uniforme qui est constitué d'une jupe et une veste pour les filles et un short ou un pantalon avec une veste pour les garçons. Parfois des chemisiers blancs, des cravates, des chaussettes blanches et des chaussures sont rajoutées à l'uniforme. En portant ces uniformes, les élèves paraissent élégants, mais des fois, l'école choisit la couleur des sous-vêtements des élèves et ce qui réduit encore plus leur liberté, c'est l'apparence physique. Car en effet, les écoles exigent souvent que la couleur des cheveux soit naturelle. Certains élèves ont été expulsés car ils avaient des cheveux clairs et non noirs. Également, avant de quitter leurs établissements scolaires, ils doivent les nettoyer. Et oui, car depuis leur plus jeune âge, ils nettoient leur école de fond en comble. Le chiffon qui fait partie de leur liste de fournitures scolaires se nomme le zokin. Cette technique de nettoyage s'appelle el ozujijikan, ce qui veut dire temps de nettoyage. Mais un autre aspect de leur vie. Avouons-le, on adore les grandes vacances. Se lever à 10h tous les matins, jouer, profiter, s'amuser, et même si les parents nous donnent des devoirs souvent, nous attendons tous. Eh bien, les enfants japonais font du sport à la place, ce qui leur laisse peu de temps pour profiter de la vie et se reposer. Mais ils le vivent quand même très bien et ne se plaignent pas pour autant. Passons à la dernière règle qui est pour moi la plus ouf et c'est pour ça que je vous l'ai dit en dernière. C'est parti. Les élèves ne peuvent éternuer que 3 fois en classe, sinon ils se font exclure durant la fin du cours. Mais cette règle a été supprimée dans certaines écoles. J'ai choisi ce sujet car le Japon est vraiment mon pays préféré. Merci de m'avoir écouté sur Galabert City, le son du collège. Nous allons écouter Lemon Tree de Fools Garden, qui est un groupe allemand comme pause musicale. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see
just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see, just a yellow lemon tree.
Maintenant, Louise et Charline vont parler des espèces animales menacées.
Bonjour Charline, comment vas-tu aujourd'hui ?
Bonjour Louise, je vais très bien, merci, et toi ?
Je vais bien, merci. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler des espèces menacées dans le monde. Est-ce que Charline, tu pourras un peu nous parler des animaux en général ?
Oui, il n'y a pas de souci. Alors dans le monde, il y a 8,7 millions d'animaux sur la Terre. Donc 7,77 millions d'espèces animales. Plus de 950 000 ont déjà été catalogués. Il faudrait 1000 ans pour identifier les 8,7 millions d'espèces au total sur la planète.
Dis donc, ça en fait des animaux. Ça veut dire qu'ils sont plus nombreux que les humains. C'est incroyable.
Oui, et malheureusement, ils sont en danger. Car depuis 4 siècles, plus de 400 espèces de mammifères et d'oiseaux ont disparu à cause de l'homme. Et autant de plantes, insectes et reptiles. Aujourd'hui, ce sont près de 6000 espèces animales qui sont menacées de disparaître à cause de la déforestation devenue trop intense. Mais dis-moi Louise, quelles sont les espèces les plus menacées ?
Alors, les espèces les plus menacées sont l'ours aux bains de Pyrénées, l'esturgeon, l'alligator de Chine, la rat de lyre, la rat de Spix, le rhinocéros de Sumatra, le dauphin du Yangtze-Kiang, l'orang-outan de Sumatra, le phoque de Méditerranée et le wombat à narines poilues.
Eh ben dis donc, il y en a plein.
Oui, mais malheureusement, il y a plein d'autres. Mais à ton avis, Charline, c'est à cause de quoi ?
Alors, à mon avis, il y a plusieurs causes à ça. Dans la catégorie de la pollution, il y a les sacs plastiques. Les tortues confondent cela avec les méduses, donc elles les avalent et s'étouffent. Les plasticines sont des produits pour tuer les insectes qui sont dans les champs et du coup, les oiseaux ne trouvent plus à manger. Dans la catégorie réchauffement climatique, chaque été, la chaleur est de plus en plus puissante, ce qui dérègle le climat et également le cycle d'hibernation et reproduction et de migration, et plein d'autres choses du quotidien.
Mais dis-moi, comment pouvons-nous y remédier ?
Nous pouvons y remédier par exemple en ne taillant pas les haies le printemps mais en automne. Il ne faut pas cuire les fleurs ni ramasser les coquillages qui sont en zone protégée. Ne pas perturber un animal dans son habitat et ne pas jeter les papiers ni autres déchets dans la nature. Et plein d'autres petits gestes que nous pouvons faire chaque jour pour aider les animaux.
Merci Charline pour tous ces conseils. Et avant de vous laisser, j'aimerais vous parler du livre dont on s'est inspiré pour écrire cette chronique radio. C'est le livre « Les espèces menacées » de Emmanuel Grandman et de chez Milo, jeunesse. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Au revoir.
Merci de nous avoir écoutés sur Radio Escapade, Calabatiti, le son du collège. Au revoir et à bientôt.
Merci Louise et Charline. Et tout de suite, nous allons écouter Zoé qui va nous parler du Glaucus atlanticus.
C'est parti.
Salut. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un animal qui s'appelle le Glaucus atlanticus. Certains l'appellent le dragon bleu. Le Glaucus atlanticus vit dans toutes les eaux tropicales du monde. Son temps de vie est de 2 à 3 ans. Ce spécimen possède un corps plat, mince et prolongé. Ils mesurent environ 2,5 à 4 cm. Les plus grands spécimens peuvent atteindre 6 cm de long. Comme son corps est bleu, on pourrait le confondre avec un Pokémon. Le Glaucus atlanticus est dans une famille d'animaux qui s'appelle dragon marin. Bien sûr, ce ne sont pas des vrais dragons. Il est aussi dans une catégorie d'animaux qui s'appelle pélagique.
Mais que veut dire pélagique ?
C'est une sorte de catégorie d'animaux marins qui vit près de la surface. Le Glaucus atlanticus a plusieurs proies, en particulier la physalie. C'est une sorte de méduse qui a du poison à l'intérieur de sa peau. Contrairement à nous et aux autres animaux, le Glaucus atlanticus ne craint pas ce poison. Donc, il peut manger sa proie avec une facilité absolue. En plus de ne pas craindre ce poison, il se l'approprie pour s'en servir quand il est menacé. J'ai voulu parler du Glaucus atlanticus car cet animal est très peu connu, donc on en parle très peu. Moi-même, je ne connaissais pas cet animal extraordinaire. J'ai parlé de ce spécimen car les animaux sont merveilleux pour moi. Merci d'avoir écouté ma chronique sur le Glaucus atlanticus.
Et pour finir, Johan va nous présenter une critique littéraire.
Bonjour et bienvenue pour la critique littéraire. Aujourd'hui, le livre « La guerre des clans » de Erin Hunter, ou plutôt Sherrid Baldry, Kate Carey et Victoria Holmes. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, La guerre des clans n'est pas un livre vivant, c'est un livre adapté à tous les âges, même si certains passages sont un petit peu tristes ou font un peu peur. Mais après tout, c'est cela qui fait un bon livre. Pour plus de détails, ce livre est conseillé à partir de 7 ans. Mais bon, maintenant parlons plutôt du livre, ou plutôt des livres. Tant 4 livres, 13 hors-séries, des versions numériques inédites, 12 bandes dessinées, et oui, il y en a un paquet. Mais bon, c'est que du plaisir. En plus, il y a une multitude de personnages, de tous les goûts, du téméraire au peureux, en passant par le têtu. Je vous conseille réellement ce livre, car il est génial. Il y a du suspense, de l'intrigue et de l'amitié. J'adore ce livre, car il y a toujours des retournements de situation. Je veux maintenant vous lire un extrait. Depuis des générations, fidèles aux lois de leurs ancêtres, 4 clans de chats sauvages se partagent la forêt. Mais le clan du tonnerre court un grave danger, et les sinistres guerriers de l'ombre sont de plus en plus puissants. En s'aventurant un jour dans les bois, Rusty, petit chat domestique, est loin de se douter qu'il deviendra bientôt le plus valeureux des guerriers. Bon, après ce petit résumé, je vais devoir vous laisser. Allez, ciao!
C'était tout pour notre deuxième Galabert City de l'année.
Merci à tous de nous avoir écoutés.
Et on se retrouve pour la prochaine émission.
Au revoir!
Galabert City,
le son du collège!
Une émission réalisée par les élèves du collège de la Galabert.
On y parle de tout et n'importe quoi.
Retrouvez-nous sur www.radioescapade.org.